Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 21h.
Adrien Delgrange.
19h, temps universel, dans ce journal international du 6 juin. Serait-il rancunier, Donald Trump? Le président américain n'a pas l'intention d'appeler son ancien conseiller Elon Musk au lendemain de leur rupture publique spectaculaire, précise aujourd'hui la Maison Blanche. Censé donner à manger aux Gazaouis, la GHF, la Fondation Humanitaire pour Gaza, gérée par Israël, a décidé de fermer ses centres de distribution alimentaire jusqu'à nouvel ordre. Faute de financement américain, nous irons au Bangladesh où les écoles des camps de réfugiés pourraient bientôt disparaître. À la page sport dans ce journal aussi, nous sommes à Roland-Garros. Nous partons rejoindre Eric Mamrud, demi-finale du tournoi. Eric Sinner Djokovic, un choc de titan à l'heure actuelle.
Oui, avantage pour l'instant, Yannick Sinner, 6-4 en sa faveur. Il a servi pour le gain de la deuxième manche à 5-4, mais l'inusable Djokovic est rebellé pour prendre le service de son adversaire. 5 jeux partout pour l'instant sur le service du Serbe. Avantage Sinner, pas loin donc d'enfoncer le clou d'avantage.
On vous retrouve à la fin de cette édition. Et puis après ce journal, ici l'Europe, Manon Aubry, co-présidente de la gauche au Parlement européen et l'invité de Caroline de Camaret. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est une rupture spectaculaire et chaotique à la hauteur de la bromance qu'ils ont connue un temps. Donald Trump, Elon Musk, c'en est fini. Le président américain et l'homme le plus riche du monde ont passé les dernières heures à s'insulter, s'invectiver, s'écharper par réseau social interposé sur fond de désaccord sur le budget américain. Donald Trump menace désormais de mettre fin aux nombreux contrats qui lient l'État fédéral aux entreprises d'Elon Musk. Nathanaël Vitran, cela pourrait coûter très cher au patron de Tesla.
D'abord parce qu'entrer en conflit avec le président de la première économie mondiale, c'est un mauvais message à envoyer aux investisseurs. L'action de Tesla s'est effondrée de 14% jeudi quand le clash a éclaté, avant de remonter un peu quand l'hypothèse d'un coup de fil entre les deux hommes ce vendredi et donc d'une possible réconciliation a été évoquée. Certes, les cours de bourse, c'est comme les sautes d'humeur quand on a un ego fragile, ça va, ça vient. Mais attention, la menace est concrète. Le Washington Post avait fait le calcul, si on cumule les aides, les subventions, les commandes publiques. En 20 ans, l'empire Musk a bénéficié de 38 milliards de dollars d'argent public. Exemple avec SpaceX, l'entreprise spatiale, dont les contrats qui l'unissent à la NASA et au Pentagone représentent 22 milliards de dollars. En 2024, ces contrats avec l'État fédéral ont pesé pour un quart de ses revenus. La dépendance, toutefois, est réciproque. Les programmes spatiaux de Washington, y compris à visée militaire, auraient du mal aujourd'hui à se passer des services de Musk. Et quoi qu'en dit Donald Trump, il ne sera pas aisé d'inverser la tendance rapidement.
Nathanaël Vitran, la Russie qualifie d'existentiel le conflit en Ukraine. Après avoir effectué la nuit dernière de nouveaux bombardements massifs ayant au moins tué 4 personnes, une riposte selon Moscou à des récentes attaques ukrainiennes d'ampleur. Ces frappes interviennent à un moment où les négociations de paix sont dans l'impasse après un deuxième récent cycle de pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens. C'était à Istanbul en début de semaine pour parler qui n'ont pas abouti à un cessez-le-feu. Il était accusé par le groupe Total Energy d'avoir traité le groupe français de complice de guerre de la Russie en Ukraine. La relaxe. Aujourd'hui, pour Yannick Jadot, le tribunal correctionnel a décidé de ne pas condamner le sénateur français. Le tribunal a retenu la bonne foi de l'ancien candidat à l'élection présidentielle française. Yannick Jadot, présent dans la salle d'audience, était poursuivi par le groupe pour 19 séries de propos datant de mars 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette décision démontre que Total Energy ne pouvait et ne peut toujours pas aujourd'hui ignorer que ses activités en Russie contribuent au financement du régime poutinien, a réagi l'ex-député européen après la décision de justice. L'actualité au Proche-Orient, à Gaza, toujours pas de véritable distribution alimentaire. Ce vendredi, la Fondation humanitaire pour Gaza, la GHF, chargée de fournir des vivres à la population, annonce que tous ces centres vont rester fermé dans l'enclave palestinienne jusqu'à nouvel ordre. Marine de la Moissonnière, le nouveau système d'aide humanitaire imposé par Israël et mis en place depuis une semaine à peine ne fonctionne pas.
Les distributions alimentaires de la GHF ont vite tourné au fiasco meurtrier. Selon les autorités de santé de Gaza, une centaine de Palestiniens venus chercher de la nourriture sont morts depuis le 27 mai. Mardi à Rafah, plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués ou blessés par des soldats israéliens. Mercredi, nouvelle salve de tir. La GHF décide alors de fermer ses 4 centres. Hier, elle en rouvre certains avant donc cette nouvelle fermeture générale. Même si elle a finalement pu distribuer de l'aide aujourd'hui, aucune date de reprise de ses activités n'a été annoncée. Officiellement, cette société privée opaque, soutenue par les États-Unis et Israël, travaille à se réorganiser. Elle a demandé à l'armée israélienne de renforcer la sécurité des civils afin d'éviter de nouvelles scènes de chaos. L'ONU et de nombreuses ONG refusent de travailler avec la GHF. Selon ses détracteurs, l'aide humanitaire est utilisée pour servir les objectifs politiques et militaires d'Israël, notamment des déplacements forcés de population.
Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, annonce par ailleurs aujourd'hui la mort de 4 soldats dans la bande de Gaza. 4 soldats israéliens tués dans l'explosion d'un bâtiment piégé à Khan Younes, précise l'armée israélienne. Et puis enfin, au nord d'Israël, le président libanais Joseph Aoun dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. Hier soir, Beyrouth, la capitale libanaise, a été bombardée par l'armée israélienne. Et aujourd'hui, Israël menace encore de continuer à viser Beyrouth si le Hezbollah n'est pas désarmé. Au Bangladesh, l'un des plus grands camps de réfugiés au monde est en crise. Ce camp abrite plus d'un million de Rohingyas. Mais 8 ans après le plus important exode de cette minorité musulmane, l'argent manque pour les aider. L'UNICEF vient d'annoncer qu'elle allait devoir fermer toutes ses écoles si les États ne renouvellent pas leur financement dans les jours qui viennent. 250 000 enfants devraient se retrouver sans éducation. Sébastien Farcy.
Les jeunes enfants Rohingyas de ces camps du Bangladesh sont généralement nés sur place. Pour toute cette génération, les écoles de l'UNICEF sont donc l'un des seuls lieux qu'ils ont pour apprendre les bases de lecture ou de mathématiques. Mais sans nouveau financement, ces écoles ne peuvent plus opérer. Elles ne vont donc pas rouvrir en juin et pourraient fermer indéfiniment à partir de juillet. Ceci représente un désastre pour le futur de ces enfants, mais aussi pour leur sécurité immédiate. Alerte Angela Kearney, elle est responsable de terrain pour l'UNICEF dans ces camps.
Tant que les enfants sont à l'école, les filles ont bien moins de chances d'être forcées à se marier de manière précoce. Et pour les garçons, cela évite qu'ils soient recrutés par les différents groupes armés qui opèrent dans la région. Donc c'est très important de garder ces enfants à l'école.
L'UNICEF aurait besoin de 2 millions de dollars par mois pour assurer le minimum d'éducation de ses 230 000 enfants. L'arrêt des financements américains pour le développement a précipité cette crise, mais la baisse de l'aide aux Rohingyas a commencé avant et beaucoup d'autres pays ont également réduit leur soutien.
Parlons sport, tennis à Roland-Garros après la qualification pour la finale de Carlos Alcaraz. Tout à l'heure, l'Espagnol a bénéficié de l'abandon sur blessure de l'Italien Lorenzo Musetti. Place à la seconde demi-finale, elle a débuté il y a près de 2 heures maintenant. Sous vos yeux ébahis, Eric Mamrud, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Ébahi par la puissance de jeu entre Sinner et Djokovic.
Oui, la cadence infernale, surtout imprimée par le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, vainqueur des 2 tournois du Grand Chelem, le US Open septembre dernier, l'Open d'Australie en janvier. Dans l'intervalle, il a purgé une petite suspension de 3 mois, ces 2 contrôles positifs de l'an dernier. Mais il est revenu, peut-être plus fort qu'avant, en tout cas en pleine forme. Et là, à l'instant, il vient d'empocher la deuxième manche, 7-5. Novak Djokovic avait réussi pour la première fois du match à prendre le service de l'Italien dans le dixième jeu, alors qu'il servait pour le gain déjà de cette deuxième manche. Novak Djokovic qui a calé juste après, en cédant son engagement face à, il est vrai, à un adversaire un peu robotique qui renvoie tout, une cadence, une intensité tellement impressionnante avec un Djokovic qui a tout tenté, beaucoup d'amortis. Mais bon, on sent que ces 38 ans, dans ces moments où les points sont tellement fous, tellement intenses, eh bien, il cède de quelques millimètres, il peut faire la faute. Et voilà, il est en tête, Sinner, 6-4-7-5. Il se dirige tout droit vers sa première finale ici à Roland-Garros.
Merci Eric Mamrut. À suivre sur RFI, ici l'Europe.